Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité « Qu'en pensez-vous? » Une émission où on analyse, on décortique, on donne notre opinion sur ce qui se passe chez nous, dans la MRC Mère-Chapdelaine, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi partout au Québec. On va peut-être même aller dans le monde aujourd'hui. Et avec moi, j'ai la succulente Joannie Riendo. Bonjour Joannie, ça va bien?
Bonjour Pierre.
Je suis content de te voir.
Moi aussi, très contente.
Bon, est-ce que tu es heureuse?
Ah, le déconfinement, ça fait du bien!
Ouais, le passage en zone orange, c'est vrai que ça fait du bien, même si, honnêtement, ça change pas grand-chose dans ma vie, là, mais on dirait que ça fait du bien pareil.
Ben moi, pour ma part, avec ma fille de 2 ans et demi, qui grandit très vite, ben elle avait plus beaucoup de linge qu'elle pouvait mettre. Donc, aller chercher une nouvelle paire de mitaines, pas juste... C'est une paire de mitaines qui va durer, que je veux aller chercher à un certain endroit. Donc, il y a plusieurs produits que je voulais aller chercher, plusieurs éléments que moi, je voulais aller chercher puis que j'attendais la fin de la pandémie. Qui étaient non essentiels, mais qui me permet d'être plus confortable à la maison. Ça a été le fun. Ça a fait du bien.
Mais nous, on a varié nos manières d'acheter. On a acheté beaucoup via le web, mais on achetait quand même dans les commerces locaux. Tu sais, Galerie du Jouet, Modchoc, etc. Puis écoute, le lendemain, c'est dans ta maison. Là. Fait que c'était vraiment, ils ont vraiment des bons services aussi. Là. Mais j'avoue, pour les vêtements, avec des enfants, pour les grandeurs, ça peut poser quelques problèmes.
Oui, puis dans mon cas aussi, c'est que j'aime ça bouger, j'aime ça voir du monde. Donc juste aller magasiner. Puis par exemple, je devais aller me chercher des vêtements de sport pour un rendez-vous médical. Je peux pas les commander avec la chaîne que j'ai, je peux pas les commander par internet puis être sûr que je vais l'avoir pour mon rendez-vous qui est le jeudi soir, tu sais. Donc ça m'a permis d'aller chercher tout ce que j'avais besoin puis de faire les achats. Ça soulage. Puis je te dirais que la chose que j'ai le plus hâte, c'est d'avoir mon bip de lave-vaisselle.
Ah, on te le souhaite. Bon, on a quelques bonnes initiatives, bonnes nouvelles. Je pense, en partant, on aime ça. Puis c'est souvent, en plus, quand on parle de la MRC, j'aime ça.
Oui.
On a l'impression qu'on se déniaise, qu'on avance, qu'on est une belle sous-société.
Ici, à Mère-Chapdelaine, il y a quand même une culture de l'innovation.
Ouais.
De l'innovation sociale, surtout, qu'on choisit de faire
sociale,
des actions.
Culturelle. Moi, je pense à un gars comme Jimmy Doucette, là. C'est un gars qui est sorti du paradigme du théâtre puis a fait les choses différemment. Ça vient d'ici.
Bien, c'est ce qu'on appelle du développement local.
Oui. Donc, on va commencer par parler de Mémo Mère-Chapdelaine, qui a été mise en place par la ville de Dolbeau-Missassigny, qui est un espèce de nouveau système de communication où on peut s'abonner puis recevoir les nouvelles. Je pense que plus de communication, c'est toujours mieux que moins. Hein. On en parle souvent, les problèmes de communication ou la transparence de nos gouvernements municipaux, tout palier de gouvernement, en fait. Mais je considère que c'est une belle alternative, en fait, pour communiquer plus facilement avec la population.
Là. Bien, il y a tellement de médias aujourd'hui que pour des équipes de communication, c'est dur de choisir un média qui va permettre d'atteindre tout le monde. Les journaux, c'est plus tout le monde qui les écoute. Les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, la radio, encore une fois, c'est pas tout le monde qui l'écoute non plus. Il y a la télévision.
Puis
d'être à l'écoute, mais pas tout le monde.
Ben donc... Non, puis même si on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute au bon moment pour avoir l'information? Tandis que quand tu as ton application ou tu t'abonnes, mais là, tu as l'information directement. Là.
Oui, puis tu es sûr d'aller atteindre directement la personne parce que c'est un abonnement. La personne, elle a décidé de vouloir avoir ces informations. Donc, c'est très intéressant. Puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que si c'est fait sur la formule d'une application, il y a toujours place à perfectionnement. En plus, contrairement à des médias sociaux ou encore à des grands noms, des médias sociaux ou des médias plus larges, bien, ça peut être juste local et la conception est locale aussi. Donc, on renchérit pas une organisation qui est externe.
Oui.
Parce que si on paye de la publicité sur Facebook, si on paye de la publicité sur d'autres endroits, ça n'empêchera pas les municipalités, la MRC, de faire la promotion dans les médias classiques pour atteindre une clientèle, mais ça va aussi plus cibler une autre clientèle qui est plus dure à toucher.
Mais moi, en tout cas, je veux revenir un peu dans le passé. Quand, à l'époque, je pense que c'était Richard Hébert qui était maire de Dolbeau-Missassigny, on avait engagé quelqu'un en communication. Et puis, il y a des gens qui se posaient la question, « C'est-tu vraiment... » Moi, je pense qu'on voit aujourd'hui comment c'était une bonne idée. Parce que, plus transparent, on voit souvent sur les médias sociaux, « Ah, il y a telle affaire, on va déneiger telle rue, ah, il y a tel problème à telle place, faites attention. » Donc, on va avertir les gens. Moi, j'ai plein d'informations. Je trouve vraiment que ça passe beaucoup mieux, puis il y a beaucoup plus de transparence et que la communication est meilleure. Et ça, je pense que pour une ville, c'est toujours une bonne idée.
Et un directeur des communications, on pense souvent à passer les messages. Mais il y a un message aussi qui est le look professionnel. Dans le fond, l'impression professionnelle qu'on a. Lorsqu'on a un directeur des communications dans une institution aussi grande et en plus politique, on s'assure que le message est clair, qu'il est apolitique, qui se rend aux bons endroits, qui a une image uniforme aussi. Parce que si on voit, on compare avec des plus petites municipalités où il n'y en a pas, on va voir qu'il va avoir un design différent par publication, tu n'es pas capable de reconnaître ou encore...
Donc, d'identifier rapidement.
D'identifier rapidement d'où vient la source. Aussi puis quand on dit clarifier les messages aussi, ça prend toute une expertise pour être capable de trouver la phrase la plus courte possible qui va accrocher pour que les gens s'en souviennent. Donc, les communications, c'est très large, mais à la fois, c'est essentiel dans toute organisation d'une certaine ampleur. Parce que le directeur des communications à la ville de Duluth-Mississinie, c'est pas juste les communications externes, mais les communications entre les employés. Comment on fonctionne, comment on s'assure que le message soit rendu, comment on affiche les offres d'emploi aussi, comment... donc, toute l'image, tu sais, le panneau d'affichage qu'on a à côté de l'hôtel de ville depuis plus d'un an, ça fait partie des choses qui sont en lien avec la communication. C'est sûrement le directeur des communications qui a indiqué l'emplacement aussi, qui a fait ses recommandations pour l'emplacement de l'affichage parce que c'était le plus concret. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la communication dans ce domaine-là. Donc, surtout avec la nouvelle image, avec les nouveaux éléments, puis apporter les messages positifs et l'organisation des événements aussi, parce que la ville en organise beaucoup, mais comment on la match, comment on la promue, c'est très important.
Oui. Puis c'est vrai que ça donne de la crédibilité. En plus de la transparence, ça donne de la crédibilité, en tout cas plus que mes cheveux de pandémie.
Parle-moi-en pas.
ça achève, ne vous inquiétez pas, les coiffeuses sont ouvertes. Je n'aurai plus ces cheveux-là très longtemps. Une autre belle initiative qui vient de la table de la lutte à la pauvreté, Maria Chapdelaine, c'est la campagne « Recycle don », don comme donné, ta tablette. On le sait, avec la pandémie, toute la numérisation, le fonctionnement, le travail, télétravail, etc., il y a beaucoup maintenant, on en a besoin. Ça devient un service essentiel d'avoir Internet et des outils pour pouvoir l'utiliser. Et souvent, bien, quand on veut se débarrasser d'une vieille tablette ou un vieil ordinateur, bien, on se dit, je sais pas, on le jette ou on ne sait pas quoi faire avec, bien, pourquoi pas le donner à des gens qui pourraient l'utiliser puis favoriser des gens peut-être qui ont moins les moyens de s'acheter des nouvelles technologies. Ça coûte quand même dispendieux, là, un ordinateur, une tablette. Fait que ça peut aider les gens peut-être à sortir, je dirais pas à se sortir de la pauvreté, mais au moins avoir un acquis, un outil de plus pour pouvoir fonctionner.
Une plus grande autonomie. Parce que maintenant, tout se fait par Internet. Nos transactions bancaires, nos échanges, les relations sociales. Il y a beaucoup de choses qui se passent par Internet. Un ordinateur portable. Bien, il y a des ordinateurs portables qui sont moins chers que des tablettes. Mais pour en avoir eu un à la maison, c'est pas du tout agréable parce qu'il est trop lent, il y a plusieurs choses. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les ordinateurs portables, alors qu'une tablette, c'est beaucoup plus intuitif.
Très, très.
C'est beaucoup plus intuitif, on clique avec les doigts, c'est beaucoup plus tactile, peu importe l'âge, peu importe la situation. Donc, c'est intéressant, puis surtout que les gens qui ont les moyens renouvellent leur tablette assez régulièrement. Donc, la tablette d'il y a 5 ans peut être encore réutilisée par quelqu'un qui en a besoin. On pense, par exemple, aux aînés. Oui, on pense aux personnes avec peu de moyens. On pense aux familles aussi, avec les enfants qui sont à l'école à distance, mais qui n'ont pas assez d'équipements électroniques pour chacun des enfants puis suivre ses cours.
Ben oui, absolument.
Il y a ça aussi. Donc, ça change beaucoup le style de vie. Ça aide beaucoup. Puis, c'est une bonne idée parce que présentement, il y a le programme « Sert peu à rien » qui est québécois, où on peut aller porter nos équipements électroniques. Et nous, à Duluth-Mississinie, c'est à l'éco-centre. On va déposer. Puis le CRP à rien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va démanteler complètement l'ordinateur pour récupérer les matériaux rares et autres, les faire refondre de manière sécuritaire pour refaire d'autres équipements électroniques. Pour les tablettes, bien, c'est... On y va plus que le recyclage, on va dans la réutilisation. On envoie des usagers qui sont vendus 50-100 $. Ben dites-vous que c'est quelque chose qu'on permet d'économiser à une famille qui en aurait besoin. Donc, c'est beaucoup plus écologique, ça répond aux besoins du milieu, puis ça donne plus d'autonomie. Puis, je sais aussi qu'il existe des outils par le gouvernement du Canada, gratuits, des cours d'utilisation de tablettes sur Internet, avec l'utilisation de Word, d'Office, parler de la sécurité, de l'identité virtuelle.
Oui, oui, parce que donc, ça, c'est un autre enjeu, c'est la sécurité de nos données personnelles.
Bien, tu sais, par exemple, les personnes immigrantes dans nos milieux sont initiées à ça avec cet outil-là, sur c'est quoi l'identité virtuelle, c'est quoi comment on peut faire un vol d'identité sur Internet. Donc, tout ça aussi rentre là-dedans. Mais on a bien beau en parler, mais si on n'y touche pas, si on n'y a pas accès, si on ne vit pas la réalité de ce monde virtuel numérique, bien, c'est dur de le concevoir. On peut avoir la formation autant qu'on veut, mais si tu es capable de t'acheter un équipement numérique seulement dans 2 ans, il y a bien des compétences que tu vas avoir perdues entre-temps.
Ouais. Chouette, une très belle initiative. On dit bravo, 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 on aime ça, on aime ça. Autre chose qu'on aime, c'est le sirop de bouleau. Écoute, moi, ça fait plusieurs années que j'étais à la recherche de sirop de bouleau. Puis quand j'essayais d'en faire venir, il fallait que je le fasse venir des territoires du Nord-Ouest, du Yukon. Écoute, c'était compliqué. Maintenant, on en produit ici et ça va bien. On va parler de l'entreprise Parallèle 49 qui a fait sa production et ça va tellement bien qu'on pense tripler la production de sirop de bouleau.
Bien, Parallèle 49, ça fait plus de 2 ans que ça existe dans la MRC Maria-Chapdelaine. C'est un conseiller pédagogique du SAE du Pays des Bleuets qui est propriétaire avec sa conjointe. Et le sirop de bouleau, je sais qu'il est très utilisé par plusieurs chefs cuisiniers dans notre région.
C'est un aliment.
Il en manque! Il en manque. Donc, c'est vraiment le fun de voir qu'ils vont devoir tripler la production pour être capable de répondre seulement aux besoins locaux. Parce que je sais qu'ils n'exportent pas tant que ça. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean seulement ou un peu plus loin sur commande. Donc, c'est super intéressant. Donc, puis pas juste des petites quantités. Il y a quand même des grosses bouteilles. Si ça vous tente de l'essayer, moi, c'est pas ce que je préfère. Parce que je trouve que c'est plus amer que le sirop d'érable. Mais c'est pas ceux qui trouvent que le sirop d'érable est beaucoup trop sucré, essayez le sirop de bouleau. Essayez-le. Vous allez l'adorer. Puis c'est un produit qui est spécifique à notre nordicité.
Mais quand on parle justement d'utiliser les ingrédients de la Boréalie, on est carrément là-dedans.
Et le bouleau, en plus, c'est un arbre qui est très peu utilisé dans le domaine forestier. C'est un arbre qu'on... À part, le seul bouleau que je connais qui est le bouleau jaune, personnellement, dites-moi si je me trompe, mais personnellement, je connais qu'une seule entreprise au Québec qui transforme le bouleau jaune. Et c'est une usine à la tuque qui font les abeilles-langues puis les bâtons de popsicle brayers.
Il y a quand même le bois pour le chauffage. On utilise le bouleau.
Bien, c'est le bois de chauffage. Bien, c'est ça.
C'est de la transformation. C'est de l'arbre à une bûche.
Oui, c'est de la transformation. Mais je veux dire, c'est pas au niveau industriel.
Non.
C'est pas une industrie qui transforme le bouleau. Donc, ça reste quand même très intéressant parce que faire du sirop de bouleau, c'est pas le trancher. C'est le garder le plus longtemps possible, le garder en santé, de produire. C'est comparable à l'érable à sucre. Mais ça prend... Pourquoi il vaut plus cher que le sirop d'érable? Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup plus d'eau, de bouleau, pour faire un sirop de bouleau intéressant. Donc, c'est pas un produit qui est donné. Mais maintenant, c'est un produit qui est accessible.
Ouais,
c'est ça qui est le fun.
Oui. C'est vraiment une très belle initiative. J'aimerais qu'on parle aussi de la formation des policiers. On sait qu'on a parlé beaucoup dans la dernière année de racisme systémique, des relations avec les Premières Nations, etc. Puis moi, je suis content. On en a parlé cette semaine. Bien, ça fait un petit bout que ça existe, là. Mais ici, à Allemagne, on forme les nouveaux policiers, mais les policiers autochtones pour vraiment en lien avec les communautés. Je trouve que c'est une belle initiative, en fait, parce que eux, ils ont la sensibilité de la culture, du territoire, de la compréhension aussi au niveau de la langue, etc. Puis, bien, ils vont pouvoir amener une confiance, hein, parce qu'on sait qu'il y avait une grande crise de confiance entre les communautés et les policiers. Et je pense que c'est une super initiative, en fait, pour aider à ce que les Premières Nations aient une meilleure... une meilleure qualité de vie.
Une meilleure... que les services de sécurité publique aient une meilleure connaissance, une meilleure compétence d'intervention auprès des Premières Nations.
Oui.
Parce que on a de la chance quand même. Le Collège d'Alma est un des rares collèges qui a toute une division et un soutien exprès pour les personnes d'origine autochtone. C'est très peu connu, même localement, mais le Collège d'Alma ont des professionnels sur place avec une salle dédiée aux étudiants autochtones, avec des intervenants qui sont là pour ça. Donc, c'est vraiment le fun. On a la chance d'avoir une communauté accessible, oui, ouverte, puis je vous invite à aller au musée de Massoya, je vous invite à aller discuter avec les citoyens de Pequa In... excusez, je pensais être capable, mais non. Les Innus de Massoya, je vais le travailler. La prochaine fois que je repasse, je vais le travailler puis je vais le dire de la bonne façon, mais de Massoya. Ils ont tout un nom, Pequagami, les Innus du Pequagami. Je ne sais plus comment le dire au complet, mais c'est quand même très intéressant d'avoir aussi l'accès parce que, je vais remettre mes idées en place, parce qu'au niveau de la culture autochtone, présentement, il y a eu pendant longtemps de l'insécurité face aux policiers. Parce qu'il y a la méconnaissance, l'incompréhension mutuelle de c'est quoi le rôle, de différences culturelles, du fonctionnement. Puis il y a aussi pendant longtemps aussi, il y avait certains policiers qui n'avaient aucune connaissance du concept de blessure générationnelle. Le trauma générationnel.
Oui, absolument. Je veux dire, le policier, là, il n'est pas nécessairement méchant, mais il représente quand même le pouvoir colonial, tu sais.
Puis, c'est pas tant que le policier n'a pas une conscience du fait qu'il représente le pouvoir colonial.
Non, c'est ça, mais l'image que ça a.
Mais le policier n'a pas aussi conscience que même si on vit au Québec, on n'a pas la même culture.
C'est ça.
On n'a pas la même vision de c'est quoi les heures, c'est quoi l'horaire. On n'a pas les mêmes défis aussi au niveau de la criminalité. On n'a pas les mêmes défis au niveau de la consommation, les commerçants de produits. Puis de plus en plus, les policiers sont sensibilisés au travail de travailleurs sociaux. Donc ça, c'est déjà le fun. Puis depuis quelques années, il y a de plus en plus de professionnels de la sécurité publique qui se forment en intervention auprès des communautés autochtones. Il y en a de plus en plus. Il y a même des programmes dans plusieurs universités en sécurité publique qui sont dédiés à ça. Puis dans les postes de police de la Sûreté du Québec, où il y a une communauté qui se trouve sur le même territoire, il y a toujours au moins un agent qui est dédié à la relation avec la communauté autochtone et les policiers. Parce que de plus en plus, on parle des policiers en général, mais il y a des services de police dans chacune des communautés. Donc, ce n'est pas la Sûreté du Québec dans la majorité du cas. C'est des gens de la communauté qui sont. Donc, ils vont être mieux formés pour la relation entre les policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC ou des autres corps de police.
Créer des ponts, hein, c'est ça. Hein, créer des liens, créer des ponts.
Oui, puis l'intégrer au niveau culturel aussi. Parce qu'il y a de plus en plus d'actions en matière de sécurité publique, en matière de santé physique, mentale, psychologique, tous les types de santé qui sont faites, qui sont adaptées à la communauté autochtone. Ça me fait penser à la DPJ qui, il y a 2 ans, a accepté qu'à Wemontashi, la DPJ n'intervenait plus de la même façon. C'était des membres de la communauté avec un travailleur social adapté. C'était les membres de la communauté qui faisaient l'intervention, mais qui faisaient l'intervention à la manière, en respectant la culture sur place. Où le travailleur social va superviser, mais c'est les aînés du milieu qui vont aider devant un cercle de prière dans un tipi avec, mais dans des lieux où que c'est la famille et les enfants ne sont plus sortis de la communauté, mais sont dans un membre de la communauté, souvent chez les grands-parents, le temps que les parents retravaillent, les parents peuvent venir sur leur... Il y a toute la supervision. Donc, on se retrouve dans une avancée où on prend beaucoup plus conscience de la différence, on l'adapte. C'est gagnant pour tout le monde. C'est, on parle pas juste « Ah, faut que les Autochtones se sentent plus intégrés ». Non, excusez-moi, là. C'est pas une affaire d'intégration, c'est une affaire d'échange culturel. Si on est ouvert, on apprend beaucoup d'une communauté qui est différente de nous. Donc, moi, je suis vraiment contente que les cohortes de policiers autochtones soient de plus en plus importantes, parce que c'était déjà difficile pour une personne de nationalité autochtone d'aller faire une technique, mais en plus, la discrimination lorsqu'il allait à Nicolette, à l'Institut de police. Donc, c'est déjà... On va voir une augmentation parce que le nombre de jeunes autochtones que j'ai pu rencontrer dans ma jeune carrière qui me disaient « Moi, je veux devenir policier. » C'était jeune, 4-5 ans, mais à l'âge de 10-12 ans, lorsqu'ils ont des problèmes de racisme systémique, je dis « Je veux rien savoir des policiers. »
Oui,
alors
ça.
Qu'on voit que le potentiel à la base...
Il est là.
Ils ont une relation de confiance et ça se transforme lorsque les différences culturelles deviennent trop importantes. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel en tant que communauté, en tant que... Puis les policiers ont un potentiel aussi de... pour aider. Mais c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est le fun, j'encourage les étudiants. Félicitations d'avoir fini, surtout dans le temps de pandémie qu'on a présentement. Mais j'applaudis le travail du Collège d'Alma dans l'intégration des personnes autochtones, parce que c'est pas juste pour la technique policière, c'est dans tout l'ensemble...
Toutes les facettes de leur enseignement.
Oui, dans tous les programmes aussi, c'est accessible. Je sais que l'UQAC aussi a une division pour ça aussi. Mmh. Il y a l'Abitibi-Témiscamingue, mais c'est faut les nommer parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Un pas à la fois, mais
oui.
On va y arriver. Avant la pause, je veux qu'on parle, parce que là, on sait, on s'en vient dans la période de la Saint-Valentin, et je veux vraiment pas qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de la période qui va suivre, qui est la période que tout le monde adore, la période des impôts. Ouhou! J'ai deux sujets, entre autres, liés à ça, là, c'est que, là, peut-être que, là, les impôts risquent d'être peut-être un peu plus compliqués cette année, pour plein de raisons, pandémie, PCU, travail à la maison, etc. Donc, je pense qu'il faut se préparer, puis il faut peut-être se préparer à avoir des surprises qui vont peut-être être bonnes, peut-être être mauvaises. Je connais pas la situation. Et, comme à chaque période d'impôt, revient le grand débat sur une déclaration de revenus unique. Donc, comme ça se fait ailleurs, là, donc qu'on fasse une déclaration d'impôt, puis qu'après ça, bien, les provinces et pays, et Canada, donc fédéral, provincial, s'entendent sur le partage des 10 impôts. Bon, ici, la grande peur, c'est pas de faire un... Je pense que tout le monde aimerait mieux faire rien qu'un rapport d'impôt ou deux, c'est plus simple. Mais la grande peur, c'est plus pour le centre de données fiscales qui est à Jonquière, qui emploie beaucoup de monde. Donc, on aurait peur peut-être de perdre des emplois. On sait que la position du Bloc québécois est, oui, un rapport d'impôt unique, on n'est pas contre, mais il faut s'assurer qu'il ne se perde aucun emploi au Québec.
Bien, qu'il se passe, dans le fond, que le travail qui passe par le provincial vers le fédéral et non l'inverse.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, qui est plausible, qui est intéressant. Puis en plus, ceux qui font présentement leurs impôts de manière numérique, on le remplit une fois. Ça se fait déjà de manière automatique. Donc, c'est oui, il y a un risque de perte d'emploi si ça devient un seul, parce que comme...
Mais juste passer par le numérique puis le faire de manière numérique, il y a un risque de perte d'emploi aussi.
Ben,
est-ce que c'est des ordinateurs qui traitent plus que des personnes?
Non, je te dirais que, étant donné la rareté de main-d'œuvre, c'est que ça ralentit le besoin d'embaucher de nouvelles personnes.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y a quand même des vérifications. L'ordinateur n'est pas 100% autonome. Il y a la vérification, mais lorsque la vérification est faite, il y a un professionnel qui le relie. OK, s'il y a une erreur, s'il y a une incompréhension, puis il y a beaucoup. Moi, mon impôt, l'année passée, j'étais travailleur autonome, je suis devenue employée, il y a eu des changements. Bien, 3 mois après que j'ai reçu mon retour d'impôt, bien, j'ai un agent de l'impôt qui m'a appelé en disant ben il y a telle chose qui s'est passée. Ils n'ont pas dit c'était une erreur, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-nous, ça change rien sur vos revenus, c'est juste
pour comprendre.
Bien, plus exactement, c'est que moi, j'avais envoyé mon formulaire papier parce que le logiciel que j'utilisais me demandait une information que je jugeais pas nécessaire, le numéro d'assurance d'emploi de mon associé. Non, c'est pas nécessaire. Donc, puis il refusait de l'envoyer. Donc, moi, je l'envoyais par la poste. Donc là, il me demandait pourquoi. Quand j'ai expliqué, OK, c'est bien correct, c'est réglé. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va vérifier. Il ne va pas faire une vérification comme on peut tomber par hasard puis qui nous demande tous nos papiers qu'on fait. Mais il y a quand même quelqu'un qui va revérifier, qui va revoir par-dessus l'ordinateur qu'est-ce qui a été fait. Donc, ça aide, ça pallie. C'est pas une perte d'emploi, ça pallie à la rareté de main-d'œuvre.
OK.
Donc,
j'aime ton analyse.
Il n'y a pas personne qui a perdu son emploi parce qu'on a. On le fait par le système. C'est juste, c'est plus rapide. Puis il y a quand même des vérifications. Ça donne plus de... Je trouve que ça laisse plus de place à l'expertise. Au lieu d'être juste dans la lecture et autres, bien là, tu fais plus affaire avec l'expertise de la personne qui est là parce qu'elle répond au problème ou à la vérification. Donc ça, c'est déjà bon. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas perdre d'emploi, mais en même temps, il faut se dire qu'on paye deux fonctionnaires pour le même travail lorsqu'on fait fédéral et provincial. Mm-hmm. Donc, c'est quand même... C'est une question à se poser.
Mais en période de rareté de main-d'œuvre, on pourrait les affecter ailleurs, ces gens-là, pour aider dans les services où ils en ont besoin, je ne sais pas.
Oui, mais comment on fait pour les affecter? Parce que lorsqu'on parle de professionnel, lorsque tu es un professionnel en impôts, c'est un peu dur de dire, bon, ben tu t'en vas dans les chiffres de tel autre. C'est une spécialité, c'est une profession. Les impôts. Les techniciens comptables ou les comptables vont dire, oui, on est capable de faire des rapports, mais quelqu'un qui va faire l'analyse, qui va voir c'est quoi l'aspect légal, c'est une autre chose. C'est celui qui reçoit les impôts, c'est un autre domaine. Mm-hmm. Donc, c'est dur de l'envoyer ailleurs.
Mais je ne suis pas certain que c'est eux, que c'est les spécialistes en impôts qu'on a besoin de transférer, mais c'est peut-être les fonctionnaires qui font des fois juste des jobs de pas moi, de courriel, de remplissage, de, tu sais, des fois, de répondre au téléphone, je sais pas, là. Je connais pas l'intérieur, mais je pense pas que tout le monde qui travaille à l'impôt sont des spécialistes de l'impôt.
Non, non, mais en rareté de main-d'œuvre, c'est ceux-là qu'on garde, parce ben oui, que les logiciels, c'est les logiciels qui diminuent l'appareil des fonctionnaires. Ben, je sais pas comment dire, c'est pas fonctionnaire sans compétence, plutôt fonctionnaire généraliste.
J'aime ça.
Plus les fonctionnaires généralistes. Bien, ça serait quand même dur de transférer parce que c'est même si on vit une rareté de main-d'œuvre, c'est pas une rareté de main-d'œuvre dans tous les domaines. Puis l'emploi dans les programmes gouvernementaux, c'est plus dur. Donc, c'est plus dur, c'est que c'est plus recherché. Il y a plus de gens qui veulent être dans le programme gouvernementaux étant donné les conditions salariales. Je comprends. Mais... il y a quelque chose que je ne sais pas et j'aimerais savoir qui est combien ça nous coûte de payer, combien ça nous coûte par individu d'avoir deux personnes qui regardent nos impôts?
Bien, c'est une bonne question.
Parce que si... Puis là, on pourrait regarder, parce qu'au nombre d'impôts qu'on a, parce que c'est surtout au Québec...
Moins cher que d'avoir un gouverneur général.
C'est-tu quoi? Je suis 100% d'accord avec toi, j'ai même pas besoin de chiffres. OK? Quand ça coûte des millions pour une personne, ça coûtera jamais des millions pour une personne, OK? Ça, c'est sûr. Mais ça reste que c'est... faut se poser la question, est-ce qu'on veut garder des emplois à tout prix ou quel est le prix pour garder un emploi? C'est quoi notre seuil où on se dit, OK, c'est plus acceptable de tomber à 1 et que ça passe par le provincial pour pas aller vers le fédéral? Donc,
je pense que c'est surtout là que ça se joue. Là. Ils veulent garder leur champ de compétences, c'est le fédéral et le provincial là-dedans. Là.
Oui, puis c'est parce que le fédéral va garder le plus de pouvoir possible et c'est dur d'avoir des redevances du fédéral. Mais c'est dur aussi du provincial à envoyer au fédéral.
Ouais.
Donc, les deux font comme « Ah, ben non, selon... » Pourquoi il y en a deux? C'est que c'est selon mes calculs, ça me revient à moi, ça va dire « Mais non, moi, selon les miens, OK. »
Mais faudrait voir comment ça se passe dans les autres provinces, là, parce que ça fonctionne, les autres provinces, là.
Mais les autres provinces n'ont pas autant de services qu'on a au Québec.
Oui.
Les garderies à Primaudic, il y a plusieurs choses. Le coût des études n'est pas le même au Québec. Donc, il y a plusieurs services qui sont déjà au Québec. Pourquoi nos impôts sont plus élevés? C'est parce qu'on a ces services-là qu'on décide. Là.
Ouais.
L'assurance médicaments, par exemple. L'assurance médicaments, c'est pas partout.
Mm-hmm.
Il y a plusieurs choses qui font qu'on a des services que d'autres personnes, que d'autres provinces n'ont pas, puis qui coûtent très cher.
Oui, c'est à réfléchir. J'ai hâte de voir. Je sais de toute façon que ça ne se réglera pas cette année puis qu'on va en reparler l'an prochain.
Ah, c'est assuré. Mais les impôts, moi, ce que je peux vous dire cette année pour les impôts, Je pense que pour la majorité des gens qui ont reçu la PCU ou autre, ça vaut la peine de parler avec un technicien comptable ou des personnes professionnelles en impôts. Même si vous ne l'avez pas fait auparavant, mais vous allez, ça va être un investissement beaucoup plus qu'une dépense parce que ça va être une source de stress. La législation va être très particulière cette année. Ouais. Il va y avoir beaucoup de choses.
Surtout en télétravail, là, tu sais, c'est pas clair qu'est-ce qu'on peut.
C'est pas clair. Puis avoir un professionnel qui le fait, qui nous accompagne, moi, c'est ce que je vous recommande. On a des professionnels, on a des travailleurs autonomes, on a des organisations ici. Profitez-en. Profitez de cette expertise-là qu'on a pour le voir comme un investissement plus qu'une dépense. Il faut en profiter.
Et surtout, allez, va faire vos impôts. Hey, on s'en va en pause, puis on revient tout de suite après. À tout de suite.
C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups. Pour se sentir en sécurité. Pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca.
Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit.
J'espère que vous avez passé une bonne pause, vous avez fait un bon café. On continue avec l'actualité. On va s'en aller à l'échelle de la province du pays. Bon, bien sûr, on ne peut pas passer outre le COVID-19. Bon, premièrement, on sent bien là, dans la région en ce moment, on a déconfiné. Écoute, on est entre 1, 2, 3 cas par jour depuis une semaine. On sent la liberté qui s'en vient. Cependant, il y a des lumières rouges qui s'allument, entre autres les variantes du virus. Il y a des variantes qui ont même été détectées en Abitibi chez des gens qui n'ont pas voyagé. Donc, possiblement que ça circule plus qu'on pense. Donc, je pense qu'il faut être vigilant et pas baisser notre garde immédiatement. Ça, c'est une affaire. Puis l'autre affaire, c'est la question des vaccins. Là. Moi, ça me fascine. Là, tout le monde, c'est la guerre entre qui va faire le meilleur vaccin. Puis là, au bout du compte, t'es en train de parler. Ah, ben écoute, on en prend un là, on en prend un là, une dose de chaque, il n'y a pas de trouble. Non, non, là, j'exagère, ouais, pièce, ouais. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que qu'on nage un peu dans le néant, puis qu'on essaie, comme si les essais cliniques se faisaient sur l'échelle de population entière, parce que là, on n'a pas d'études, on n'a pas rien, mais on nous dit, oh, si tu mélanges ces deux-là, ça va faire ces deux-là, on est le moins sûr, là, on va attendre un peu, mais ça se peut que ça marche aussi. Je suis un peu dans le doute. Ben, pourtant, moi, je suis pro-vaccin, là, j'ai pas peur des vaccins. Oui. Je trouve que l'histoire a démontré que, écoute, il n'y en a plus de tuberculose, puis il n'y en a plus de variole, là. Je veux dire, ça sert à quelque chose.
Et la polio, on n'en a plus au Québec.
Mais là, j'ai l'impression qu'on veut aller vite. Je comprends pourquoi. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'incidence majeure.
Bien, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut aller vite ou encore c'est qu'on veut utiliser les doses avant qu'elles expirent, si on veut les rendre accessibles. Il y a plein d'informations qui nous manquent là-dedans parce que je pense, dans les tests, présentement, on a trois types de vaccins différents qui sont offerts au Canada, dont un qui est Pfizer.
Moderna,
puis l'autre, c'est un Québécois en plus. Je me souviens plus c'est quoi le nom.
Tremblay.
Sûrement. Mais non, dans ces trois-là, il y en a deux qui sont des vaccins par ARN. Donc, c'est deux types de vaccins qui se ressemblent beaucoup parce que le principe même, c'est d'envoyer un brin, un échantillon qui envoie dans notre système à certaines cellules, créer ce brin-là. C'est le brin d'ADN, donc c'est pas le virus, mais ça permet aux globules blancs, à notre système, de reconnaître le signal d'alarme. Mmh. Dire, OK, si tu vois ça arriver, faut que tu te prépares à combattre. Donc, les vaccins présentement sont faits pas pour enrayer la maladie, mais pour diminuer de beaucoup les symptômes. C'est quelque chose de bien important à savoir. Mm-hmm. C'est pas parce que tu as le vaccin, c'est pas parce que tu as reçu le vaccin, même ta deuxième dose, que tu es immunisé. C'est que tu n'auras pas de symptômes.
Ouais, ou tu vas moins développer les
mais tu peux être contagieux. Présentement, tu peux être contagieux. Donc, faut pas se dire, ah, j'ai été vacciné, il n'y a pas de problème. C'est que t'as été vacciné, tu n'auras pas de problème.
Ouais.
Ça peut être dangereux pour les autres.
Oui, puis il y en a plusieurs qui voient le vaccin comme une solution miracle.
Là. Non.
Mais je pense qu'on parlait de communication tantôt, je pense que là-dessus, il faudrait peut-être tabler davantage, de dire, attention, t'es vacciné, là, mais t'es pas
t'es
pas invulnérable.
Là. Non, mais t'es pas invulnérable, mais c'est surtout que ça rend pas les autres invulnérables, mm-hmm. ceux qui sont pas vaccinés.
Ouais.
Parce que là, tu sais, toi, t'es invulnérable, pas invulnérable, mais t'as pas les symptômes, ça se passe bien, ça traverse bien, bien, tu tousses dans la face de quelqu'un par accident, mais lui, il a pas été vacciné ou qui est dans une situation médicale.
Il y a un danger quand même.
Il y a un danger de transmission communautaire, pareil.
Donc, continuez d'être bon au Saguenay-Lac-Saint-Jean, continuez de nous rendre fiers et de faire attention, ne baissez pas votre garde.
Ça, c'est quand même une fierté parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pendant longtemps, on a été la pire place au Canada. Et là, on a diminué drastiquement.
Drastiquement
dans un très court laps de temps. Donc, on a la chance d'être dans un territoire, d'être dans un milieu où on est capable d'avoir de l'espace, qu'on est capable d'avoir une qualité de vie, puis qu'on est capable de respecter ça. Donc, soyons encore vigilants. On peut se reposer un petit peu, on peut arrêter sous le stress intense, mais ça n'empêche pas de pas baisser la garde. Toujours être... il n'est pas disparu, le virus. Il n'est pas disparu, on va se le dire bien franchement. Puis c'est encore de la transmission communautaire. Donc, on parle présentement dans les médias le fonctionnement de la future semaine de relâche. C'est pas le temps d'aller voir vos familles qui sont à risque. Donc ça, c'est quelque chose de bien important à se dire. Mais pour les vaccins, oui, il y a plusieurs polémiques qui se font présentement. Un, parce qu'on a plusieurs types de vaccins, il ne faut pas les mélanger. Tu sais, il ne faut pas les mélanger. Tu ne vas pas mélanger un virus affaibli avec l'ARN.
OK.
Parce que l'ARN...
Mais il y a des études qui sont en train de se faire qui disent que peut-être que ce serait la meilleure idée.
Peut-être, mais est-ce qu'on veut être les tests?
Ben non.
C'est ça. Donc, on préfère
les souris.
On préfère les souris ou les personnes qui veulent bien l'être aussi. Mmh. Hein? Il y a ça aussi. Il y a des personnes qui sont prêtes à être à le vivre. C'est correct. Tu sais, les vaccins... En plus, on a eu, étant donné, c'est la première fois dans l'histoire moderne où on a tellement de besoins de vaccins tout en même temps à travers le monde.
Ouais.
Donc là, on se retrouve avec des industries.
Des compagnies, là,
qui veulent faire des profits, mais qui sont pas capables de répondre à la demande. Donc, pendant longtemps, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui disent comment ça, ils arrêtent de le faire, puis ils vont investir dans leur usine. Pour en refaire plus après, pourquoi? Pour répondre à la demande, vaut mieux mettre un pas de côté, de mieux s'installer, de faire une plus grande production que d'être toujours à la course puis de ne pas répondre aux demandes après. Vaut mieux faire un pas de côté, que tout le monde est au courant, tout le monde le fait, puis on augmente.
Il y a une politique qui se mêle à ça aussi. On a vu l'Union européenne.
Il y a des scandales. Moi, c'est des scandales qui s'en viennent, qui est, par exemple, le principe de tourisme vaccinal.
URC.
Les Émirats arabes unis, le Cuba, il y a plusieurs pays qui commencent à se dire « nous, on va acheter plus de doses que notre population. »
Ce qu'on a fait aussi. Là.
Puis, on va inviter les gens à payer 50 000 $ pour venir passer 4 semaines chez nous, tourisme tout inclus, puis on leur donne le vaccin. Savez-vous combien il coûte le vaccin par dose? Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas 40 000 $ Le principe de ces organisations politiques-là, c'est de se dire, nous autres, on va être les premiers à faire revivre notre tourisme mm-hmm. en faisant ça. Mais au détriment des personnes qui sont déjà démunies dans les pays.
Oui, la grande histoire de l'humanité. C'est toujours les démunis qui payent.
J'en aurais tellement long à dire, ça serait un épisode au complet de notre émission.
Start-moi pas là-dessus.
C'est ça. Mais... c'est une grosse problématique qu'on a sur la distribution des vaccins. Donc, ça, c'est déjà là. Mais en plus, étant donné qu'au Canada, on en a, là, Santé Canada a vient d'annoncer que sur les fioles de 5 doses, ils vont calculer 6. Ça veut dire qu'au lieu de diviser par 5 la dose, tu la divises par 6.
Je ne sais pas ce qu'il y a ce gouvernement-là, là, mais moi, au fédéral, là, j'ai de la misère à suivre. J'ai l'impression qu'on veut rien nous dire, qu'on nous dit tout le temps des phrases un peu vagues, puis qu'au bout du compte, là, j'ai l'impression qu'on improvise énormément. Là. Écoute, puis là, je dis pas qu'un autre gouvernement ferait mieux, là, mais en ce moment, là...
C'est pour répondre à la pénurie. Je suis d'accord. Mm. C'est bien, il faut répondre à la pénurie. Est-ce que c'est bien de diminuer l'efficacité qui a été prouvée lors des premiers tests? Parce que tu diminues la dose. Mais donc, tu diminues la capacité d'être efficace dans le corps humain.
Ça me semble que c'est la pire idée.
Bien, je sais pas si... C'est quand même un vaccin qui doit être transporté à moins 70 degrés Celsius. C'est un vaccin qui doit être distribué deux fois en l'espace de 4 semaines. Il faut que ça soit fait dans des installations qui permettent de le garder à moins 70 degrés Celsius. Il a fallu faire des ajustements dans notre hôpital local pour être capable de garder les doses pour qu'ils soient distribués.
Mais avec le vortex polaire, là, il a fait moins 55 au territoire du Nord-Ouest.
Oui, mais moins 55, c'est pas moins 70.
Ah oui, mais on n'est pas loin.
Puis c'est pas gardé. Mm. C'est pas stable comme température. Si tu brises la chaîne de froid d'un transport d'un yogourt, il est dégueulasse. Imagine un vaccin qui s'en va dans ta peau pour t'aider.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a plusieurs éléments, parce que là, présentement, c'est pas tant le vaccin que la logistique de transport. Mm. Il y a des gens aux Pays-Bas, si je me souviens bien, des médecins qui avaient transporté, ils ont eu un bris sur le frigo pendant le transport. Ils ont arrêté des gens sur la route, puis ils ont dit, on va les perdre. Tu te fais vacciner là ou on va les perdre.
Ouais.
Il y a 8 personnes qui ont eu des doses de vaccin dans leur retour de manière impromptue parce qu'ils allaient les perdre. C'est des défis de logistique importants. Puis, tu sais, ils ne peuvent pas arriver par n'importe quel avion.
Ben non.
Il y a beaucoup de défis
logistiques. Prendre les avions avec les fenêtres ouvertes pour que ça reste froid.
J'imagine tellement pas les pilotes.
Ouais. Hey, mais je veux t'amener à un autre méfait qu'a amené la pandémie. Il y a eu une étude faite auprès des étudiants aux études supérieures, cégep, université, qui a démontré que depuis le début de la pandémie, il y a 81% des étudiants qui ont vécu une ou une autre forme de détresse psychologique. Là-dessus, on en a 7% qui ont dit avoir eu des idées noires et 3%, c'est énorme, 3% qui ont fait des tentatives de suicide. On voit que la pandémie n'a pas juste des effets sur la santé, mais a beaucoup d'effets sur la santé mentale. Quelles sont tes analyses de cette enquête?
Ben
moi, je ne suis pas surpris, mais je ne pensais pas que les chiffres allaient être aussi hauts.
C'est la durée. Tu sais, quand on est aux études, c'est déjà pas facile quand on est sur place. Des fois, tu as le problème de concentration, les devoirs après. Mais là, il faut se dire que tu vois personne. Tu vois pas tes amis.
Des fois, t'es pas proche de tes parents, parce que quand tu es à l'université, souvent, t'es en appartement, t'es...
T'as pas le droit de sortir.
Ouais.
T'as pas le droit d'avoir de réseau social. C'est dur d'avoir accès à de l'aide psychologique.
T'as le stress des études.
Le stress des études, mais
le tu peux pas... Le stress de l'argent, parce que on sait que c'est eux qui ont...
Le travail d'équipe, t'as pas du tout la même dynamique. Ben non, ben beaucoup de pression de la part de tout le monde pour être capable de le faire. Il y a... Les emplois étudiants ont été sacrifiés. Beaucoup d'emplois, leur en tourisme ou dans le... Soit c'était essentiel, ils ont fait de l'overtime pour être capables de répondre, soit c'était pas essentiel, puis ils se retrouvent à vivre seulement sur les prêts et bourses, qui est vraiment pas beaucoup, versus combien ça coûte les études telles quelles. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent là-dedans. Il y a beaucoup de choses se nourrir. S'abriter, être capable de payer sa connexion Internet parce que on ne peut pas aller dans un café Internet, on ne peut pas aller dans une bibliothèque, on ne peut pas aller à l'université, on ne peut pas aller au cégep.
Bien que nous là, on travaille, là, on est des adultes, puis on est obligé de se racheter un ordinateur, puis de faire booster notre Internet parce que ça ne suffisait plus, là, parce qu'on avait pour deux adultes, deux professionnels qui travaillaient de la maison. Là.
Plus des enfants.
Plus les enfants qui font une partie des classes à la maison, les devoirs, les rencontres.
Non, c'est très dur. Puis Les études universitaires sont tous ou quasiment toutes dans des zones rouges où tu n'as pas le droit de sortir de la maison. Mm-hmm. Donc, c'est très, très dur. Puis, ils ont été sacrifiés versus des grands magasins ou des Costco où les gens vont s'agglutiner à une même place. Mm-hmm. Alors que les universités, c'est des grands espaces où, je sais qu'en France, dans la prochaine semaine, ils vont lancer un programme où c'est une fois par semaine. Puis les cafétérias des écoles vont donner les repas pour un euro symbolique pour aider les jeunes à manger sainement. Mm-hmm. Mais c'est aussi que sur l'heure du midi, à partir de la semaine prochaine, sur l'heure du midi, ils vont avoir le droit de rester assis à la cafétéria, donc de ne pas manger tout seul dans leur chambre. Et pour les soupers, à partir de 18 heures, ils vont pouvoir apporter les lunchs chez eux. Mais ça, c'est déjà, c'est pas besoin d'être dans des cours, mais simplement sortir de la maison, de voir autre chose, de croiser du regard en personne quelqu'un d'autre pour manger. Mm-hmm. C'est déjà bon pour la santé mentale. Et il y a aussi des commissions scolaires qui ont fait des approches très individuelles, qui ont eu les moyens puis les opportunités d'aller parler directement aux étudiants par téléphone régulièrement, une fois par semaine, une fois par deux semaines. Ça fait la différence. Mais on a aussi une pénurie de professionnels. On a déjà une pénurie de profs, mais d'orthopédagogues, ben oui. de tous les professionnels parallèles à l'éducation, dans le système d'éducation, de soutien. On a une pénurie là-dedans aussi. C'est tellement un problème complexe que je ne sais pas comment, au Québec, on va être capable de pouvoir s'en sortir. J'espère, je le souhaite pour tous les étudiants que on puisse, par exemple, permettre aux étudiants d'aller à l'université ou dans leurs installations une fois par semaine. Et même plus pour ceux qui ont décidé, « Ah, ben moi, la pandémie, ben je vais rester, je vais continuer mes cours à distance, mais pas dans la même ville. »
Ouais.
Parce qu'il y a ça aussi.
Ben oui, moi là, ça m'arrive en ce moment. J'enseigne depuis le début de la session en ligne. Et là, on me dit, là, on va avoir des nouvelles là, vers la fin de la semaine pour qu'on revienne en présentiel. Mais moi, j'ai des jeunes qui viennent de la Côte-Nord, de Charlevoix, etc., qui disent, là, moi, j'ai pas d'appart, j'ai rien, il faut que je continue en ligne parce que j'ai pas la possibilité, là en ce moment, là, ça se peut pas là, aller se trouver un appart à go pour 3 mois parce qu'ils sont juste en dernière session. Fait que là, ça va être d'organiser tout ça aussi, là.
Bien, avec les équipements qu'on a, c'est possible de faire à la fois virtuel et en présentiel. Ça se donnait déjà par la TELUC.
C'est
étrange, oui, mais ça se faisait déjà par la TELUC. Mm-hmm. Donc, c'est possible.
Oh non, c'est
pas
possible.
Agréable. Mais je pense surtout à la santé mentale des étudiants. Le fait d'être en présence de collègues du âge qui sont intéressés par le même, d'être capable de recommencer à travailler en équipe, de voir les collègues, puis d'être capable de prendre une bière en étudiant autour d'une table, même si la table est grande. D'aller prendre un café, d'aller prendre une bière, d'avoir des échanges, d'avoir
le vrai... C'est le fun tes études, toi, prendre une bière en étudiant?
Oui. Oui. À l'Université du Québec à Montréal, il y a 2 bars sur le campus. Et on y allait. Oui, oui.
Pour étudier. OK. Moi, je sépare bien ça. Moi, quand je travaille intellectuellement, je travaille. Puis quand je prends une bière, puis 2 puis 3.
Entre parenthèses, il a été démontré que pour avoir une idée originale, tu peux prendre 1 à 2 bières. Mais tout de suite après, il faut que tu prennes un café pour être capable de l'écrire.
Oh. Bravo.
Mais c'était. Moi, il faut dire que moi, mes études étaient en créativité puis en interaction sociale. Je ne suis pas intervenante sociale. Ouais. Moi, je suis médiatrice culturelle de formation. Donc, c'est pas le même domaine.
Bien, moi, rapidement, là, oui. Quand j'étais à Lyon, à un moment donné, on avait un contrat quand j'habitais à Lyon pour écrire quelque chose. Puis, entre amis, on était allé au Smoking Dog, un petit bar qu'on aimait bien. Puis, on a écrit toute la soirée en buvant. Et le lendemain, quand on a revu nos choses, le début était très bon. À la fin, c'était n'importe quoi. Dernière petite nouvelle, je veux t'en parler, je trouve ça important. On parle en ce moment de créer un tribunal spécial qui ne jugerait que les agressions sexuelles pour redonner confiance aussi aux victimes, au système de justice. On a vu là, qu'il y a des ratés. Là.
Il y a des
grandes problématiques, autant avec ceux qui... Du point A, là, au moment où on va porter plainte puis qu'on va raconter notre histoire jusqu'au procès. Moi, je considère que c'est une bonne idée. Maintenant, on en sait encore peu sur quelle forme ça va prendre parce que ça reste compliqué, là, tu sais.
Dites-moi que c'est un projet pilote, je vais être d'accord. Mm. Parce que si, c'est suppos... si ça devient le seul tribunal pour agression sexuelle, la file d'attente, toi. La liste d'attente pour avoir accès à ce tribunal-là. Puis quels seront les résultats? Est-ce qu'il va y avoir plus de condamnations?
Est-ce qu'il va avoir... Hors de tout doute raisonnable?
Hors de tout doute raisonnable, est-ce qu'il va avoir une meilleure compréhension, un meilleur...
Est-ce qu'on va davantage mettre le fardeau sur l'agresseur que la victime?
Est-ce qu'on va donner plus de soutien à la victime dans son processus aussi?
C'est plein de questions. Hein?
C'est plein de questions. Donc, si on me dit que c'est un projet pilote, je vais pas être capable... Je vais étudier, je vais regarder comment se passent les ratés. On va voir comment ça va s'améliorer. Puis quand on va arriver avec un modèle qui va être intéressant... On peut pas dire un modèle parfait. La justice ne sera jamais parfaite.
Justice, en fait, la légalité, ce n'est pas la justice.
Donc, c'est ça. Merci de la rectification, c'est bien apprécié. Bien. Quand on va avoir quelque chose qui va être solide, qui va être digne de confiance, bien, je veux pas que ce soit juste un. Il faut pas qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un par région. Il faut qu'il y en ait un par district. Il faut qu'il y en ait...
Ben oui.
Il faut qu'on ait un... Parce que...
C'est partout.
C'est de tous les âges. C'est dans tous les milieux. C'est dans toutes les régions.
Et c'est de moins en moins protégé. Moi, je prends l'exemple de ce qu'on a entendu avec dans l'armée canadienne. Qui s'est toujours bien protégé, puis il y a toujours... Ben, on ne savait pas trop comment ça se passait, mais là, ça commence à sortir. Là, on a Jonathan Vance là, qui va être... on va enquêter sur... Parce qu'il y a des allégations, on va voir qu'est-ce que c'est, mais je pense que là, on protège de moins en moins, on ouvre le dialogue, puis ça va nous prendre des outils, à un moment donné, puis je pense que ça pourrait être une bonne idée, ce genre de tribunal-là.
Oui, puis, tu sais, ça fait partie de la santé globale. Tu sais, quand on dit « Ah, fais attention à ta santé », on pense santé physique. Mais santé mentale, santé sexuelle, santé sociale, c'est toutes des choses. Ça fait partie de la santé globale des individus, d'avoir le sentiment de sécurité que peu importe ton sexe, tu vas être respecté autant physiquement, psychologiquement et socialement. C'est nécessaire, puis c'est important. Dites-moi que c'est un projet pilote. Je répète, dites-moi que c'est un projet pilote. Qui va avoir une belle transparence, qui va permettre aux professionnels, c'est pas tout le monde qui va s'intéresser à ça, mais qui va permettre aux professionnels, aux spécialistes, parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans, il y a des qui vont de se peaufiner, de travailler mieux le processus, d'améliorer la législation, d'améliorer l'aspect politique de ces problèmes-là, des problèmes des agressions sexuelles at large. Bien, oui, d'accord! Mais dites-moi pas que ça va être juste une cour. Dites-moi pas que ça va être juste une organisation. Il y en a trop. C'est que ça commence à sortir la pointe de l'iceberg. Ça commence à voir. Puis ça va permettre aussi aux personnes qui le vivent d'être plus en confiance envers le système. C'est pas tant la condamnation que le respect dans la procédure, la transparence, la sensibilisation qui rentre tout là-dedans. Pas juste une. Dites-moi que c'est un projet pilote. Là, quand on dit une cour, parce que l'article dit que c'est une cour.
Oui.
Juste une.
Non, mais il faut commencer par une avant. Tu sais, il faut l'essayer, voir si ça marche avant d'en créer 25. Là.
Non, ben oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Surtout dans le domaine juridique, si on a plusieurs, puis, tu sais, c'est quand même tenu par des humains. Donc, on a toutes nos. On a toutes nos conscients, on a nos paradigmes, on a nos préconceptions. On est tous influencés. Qu'on le veuille ou non.
Oui.
Bien, si on en aurait 25, bien, on aurait 25 résultats différents. Puis ça ne veut pas dire qu'on aurait toutes les. Tu sais, en avoir un, que c'est des professionnels qui est dédié à ça, puis que qui a son propre fonctionnement, puis on le peaufine, puis on le travaille afin que ça s'améliore, d'accord. Mais qu'après, on reproduise le modèle.
Oui, parce que ça se peut qu'il y ait des ratés, mais en même temps, je pense que c'est une meilleure initiative, ça, que de faire. Alors, on continue comme avant, parce que comme avant, ça ne marche plus, là.
Non, on continue comme avant, mais on va être plus sensible. Est-ce que les policiers vont être plus sensibles à poser la question? Ils vont arrêter de poser la question « qu'est-ce que tu mettais? » Est-ce que tu as vraiment dit non? Est-ce que tu t'as dit verbalement non? Est-ce qu'il aurait pu comprendre que... Ça, c'est toutes des phrases qu'on peut entendre.
C'est complètement...
J'ai vécu une situation de ce genre.
Ah oui?
Je n'ai pas été victime, mais j'ai été menacée d'agression sexuelle. Donc, je peux juste parler en tant que personne qui a vécu la menace. Et le policier m'a dit, C'est pas ma juridiction parce qu'on n'habitait pas sur le même territoire du poste. C'est pas ma juridiction. Je peux pas m'en occuper. Mais tu sais, t'es belle, tu vas t'en sortir. Je le regardais droit dans les yeux.
Excusez, j'ai ri là, mais c'est du sarcasme.
Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'avais mon ami à côté de moi, puis c'était dans un milieu où que le féminisme n'était pas très connu. J'ai dit, si je serais lettre, je serais pas capable de m'en sortir? Je garde. J'ai été capable de venir te le dire. Je t'ai parlé de mon inquiétude. Je fais affaire avec un représentant de la sécurité publique pour qu'il me rassure. Et tu me dis, je peux rien faire. Tu pourrais au moins envoyer une patrouille, parce que je te donne son adresse, puis leur dire, madame, elle a fait une plainte. On t'invite à arrêter de la contacter, sinon ça va plus loin. Juste ça, ça pourrait me rassurer.
Mais probablement qu'il ne t'a pas pris au sérieux. C'est ça que je comprends, là, je veux dire, à dire ça. Tu fais comme, c'est parce que tu veux te débarrasser. Là. Un peu comme un commis là, qui sait pas la réponse à ta question d'un grand magasin puis qui t'envoie à l'autre bout.
Mais il m'a même pas envoyé en disant, va voir un policier à un autre poste. Ouais. Non, on peut rien faire. Non! Tu peux faire de quoi? Tu peux appeler la personne. Je t'ai donné son numéro de téléphone, je t'ai donné son adresse, je t'ai dit que j'avais un sentiment d'insécurité et j'ai les preuves par texto de ce qu'il fait. Ah, on peut pas. C'est ça qui me... Tu sais, c'est quand même la porte d'entrée du sentiment de sécurité qu'on peut se faire respecter.
Ouais, mais tu sais, c'est vrai que t'es belle, tu vas t'en sortir, là. Excusez.
Non, mais c'est on va se le dire. Ben franchement, ça, c'est le genre de phrase qui me font que... OK, ça veut dire que si j'aurais pas un physique qui m'en redonnerait, ça aurait fait comme... Ah, prends ça pour un compliment! Non! Ça n'a pas d'allure!
C'est dégradant, en fait.
C'est dégradant! Donc, il faut se dire que les victimes qui vivent l'agression... Moi, j'ai vécu une menace d'agression. J'ai pas vécu l'agression. Ceux qui vivent l'agression, ils se font recevoir les mêmes phrases que ça, là.
Non.
S'il n'y a aucun respect... de l'intégrité de la personne. OK, je suis juste belle. OK, je suis pas intelligente d'être venue chercher le service.
La sécurité, parce que c'est ta job, man.
Je suis pas intelligente, je suis pas sensible, je suis pas... Non, j'ai pas juste ma face comme argument de vente, là. Je suis un être humain à part entière qui a le droit de se faire respecter et d'utiliser les outils qui semblent être à ma disposition. Pour avoir le droit. Et mon père, qui était policier, je peux vous dire qu'il a dit des mots d'église hors contexte quand j'ai raconté l'histoire.
Ouais.
Il a dit... Et mon père, il m'a aussi avoué qu'il avait déjà agi de même avant.
Ben,
et là, depuis qu'il y a des filles...
Ben oui.
Mais depuis qu'il y a des filles, il s'aperçoit que ça avait juste pas d'allure.
C'est ça. Hey, merci d'encore t'ouvrir ton cœur et tes souvenirs, parce que tu donnes des exemples concrets, puis je pense que c'est marquant pour les gens qui nous écoutent. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin. Merci, Joannie, pour avoir éclairé sur tous ces sujets. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine.